Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais assumer et critiquer le livre. L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Classen est un classique de l'éducation financière qui transmet des principes de bon sens sur l'argent à travers des paraboles. Situé dans la Babylone antique, plutôt que de proposer des techniques modernes ou des calculs complexes, le livre met en scène des personnages qui apprennent. Souvent à leurs dépens, comment passer du manque à l'abondance par la discipline, l'épargne et l'investissement prudent. Son objectif est simple, faire comprendre que la richesse se construit par des habitudes régulières, une gestion rigoureuse des dépenses et des choix d'investissement raisonnables. Deux ensembles de règles structurent l'ensemble les 7 moyens de remplir une bourse vide, centrés sur la création de surplus et la matrice du budget et les 5 lois de l'or. Orienté vers la protection et la croissance du capital, le ton narratif rend les leçons mémorables et accessibles à un large public. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, payer d'abord, soit même l'épargne comme fondation. Un des messages les plus durables du livre est que la construction de richesse commence par un geste simple et systématique, mettre de côté une part de ses revenus avant tout autre. Je pense. Cette idée, souvent résumée comme payer d'abord soit meub, vise à transformer l'épargne en priorité non négociable plutôt qu'un résultat aléatoire de ce qui resterait en fin de mois. Dans la logique du livre, l'épargne crée une bourse qui cesse d'être vide, puis devient le point de départ d'un capital productif. Cette approche implique un changement de posture au lieu de subir ses charges, on apprend à organiser sa vie autour d'un surplus planifié. Le récit montre aussi que ce principe n'est pas un appel à la privation permanente, mais à la discipline et à la cohérence, garder une partie pour soi. Puis ajuster le reste du train de vie, pour un lecteur contemporain. L'intérêt est pratique, ce principe fonctionne quelle que soit la conjoncture et la complexité des produits financiers, car il dépend surtout d'une habitude régulière et mesurable. Il prépare également la suite sans épargne, aucun investissement sérieux n'est possible. Deuxièmement, contrôler les dépenses et vivre en dessous de ses moyens. Le livre insiste sur un point souvent sous-estimé, le revenu ne suffit pas à rendre riche si les dépenses augmentent au même rythme. Les travers ces paraboles, Classen met en évidence la différence entre besoins, envie et habitudes coûteuses, et il invite le lecteur à reprendre le contrôle de son budget. L'idée centrale est de créer un écart positif entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. En identifiant les fuites financières qui semblent petites mais deviennent lourdes sur la durée, cette discipline n'est pas présentée comme une punition. Mais comme une stratégie de liberté à réduire le superflu permet de diriger l'argent vers des objectifs plus importants, comme la constitution d'un capital ou la réduction des dettes. Le livre adopte une approche progressive, compatible avec une amélioration par étapes plutôt qu'une révolution brutale. Il suggère aussi que la paix financière vient autant de la clarté que du montant savoir où va l'argent diminue la sensation de subir, pour un lecteur actuel. Ce tome se relie directement à des pratiques comme le suivi des dépenses, la planification mensuelle et la priorisation, tout en restant ancré dans un principe intemporel. Troisièmement, faire fructifier son or, investir avec logique et patience, accumuler un capital est une étape. Mais le livre rappelle que la richesse durable suppose de faire travailler l'argent. Les histoires de Babylone illustrent l'importance de choisir des usages productifs pour son or plutôt que de le laisser inactif ou de le disperser. La logique proposée est celle d'une croissance progressive. Un capital bien placé peut générer des gains qui, réinvestis, renforcent la dynamique. Ce principe se distingue d'une recherche de coûts rapides, il met davantage l'accent sur la patience, la régularité et la compréhension de ce dans quoi l'on met son argent. Classen introduit ainsi une idée fondamentale de la finance personnelle, la différence entre consommer et investir. Dans son univers narratif, les investissements ont vocation à rapporter, mais doivent aussi être compréhensibles et alignés avec des règles de prudence. Le lecteur est encouragé à rechercher des opportunités où le capital peut croître sans être exposé à des promesses irréalistes. Même si le livre ne détaille pas des instruments financiers modernes, sa force est de poser des critères de décision visés à la création de valeur. Préférez la constance à l'expérience hasardeuse et laissez le temps jouer en faveur de l'épargnant. C'est une base utile pour aborder ensuite des choix contemporains avec un meilleur discernement. Quatrièmement, les 5 lois de l'or: prudence, protection et bon conseil. Les 5 lois de l'or forment un cadre de prudence destiné à protéger le capital autant que le faire croître. Le livre martèle que le premier danger de l'enrichissement n'est pas seulement de gagner trop peu, mais de perdre ce que l'on a patiemment accumulé. Les paraboles mettent en garde contre les placements mal compris. Les promesses de rendement facile et la tentation de confier son argent à des personnes incompétentes ou intéressées. Un axe important est la recherche de conseils avisés, demander l'avis de ceux qui connaissent réellement le domaine, plutôt que de suivre la foule ou le discours le plus séduisant. Un autre axe est l'adéquation entre risque et connaissance, plus une opportunité paraît simple et miraculeuse, plus elle mérite examen. Le cadre valorise aussi la diversification de la prudence. Conserver un capital exige des règles, une vérification et une capacité à dire non pour le lecteur. Ces lois servent de filtre mental face aux décisions financières modernes, qu'il s'agisse d'investissements, de projets entrepreneuriaux ou de produits vendus comme sans risque. Même sans chiffres ni modèles, le livre rappelle une vérité durable, protéger son principal est une condition de la liberté financière. Et la méfiance raisonnable est une compétence. En dernier lieu, responsabilité, travail et progression personnelle vers la liberté, au-delà des règles techniques. Le livre défend une philosophie, la prospérité repose sur la responsabilité individuelle et sur une relation constructive au travail. Les récits montrent des personnages qui améliorent leur sort en apprenant, en acceptant de se former et en développant un état d'esprit tourné vers la progression. Le travail y apparaît comme un allié, non seulement parce qu'il apporte un revenu, mais parce qu'il peut devenir un levier d'apprentissage et de compétences. Cette dimension explique pourquoi le texte reste inspirant, il associe les habitudes financières à des qualités personnelles comme la constance. La patience et la capacité à digérer une gratification. Le livre souligne aussi que la liberté financière n'est pas un événement soudain, mais une trajectoire de petites décisions répétées produit de grands écarts sur le long terme. Cette vision est particulièrement utile pour les lecteurs qui se sentent bloqués, elle replace la matrice financière dans le champ du possible en proposant des étapes claires, plutôt qu'un idéal inaccessible. Enfin, la forme en parabole rend ces idées mémorisables et favorise la mise en pratique. Car chaque leçon est liée à une situation humaine reconnaissable tentation, peur, ambition, erreur, puis apprentissage. En conclusion, ce livre convient particulièrement aux débutants en finances personnelles, aux lecteurs qui veulent reprendre des bases solides, et à toute personne cherchant une motivation simple pour instaurer de meilleures habitudes d'argent. Il peut aussi servir de rappel efficace aux profils déjà familiers avec la gestion budgétaire, car il recentre sur des principes fondamentaux épargnés en priorité. Contrôler les dépenses, investir avec prudence et protéger son capital. Le bénéfice principal est pratique, le lecteur ressort avec un cadre mental clair, facile à appliquer, qui ne dépend ni d'un contexte économique précis ni d'outils sophistiques. Intellectuellement, l'ouvrage montre comment une narration peut transmettre des concepts financiers de manière durable, en associant chaque règle à une situation concrète et à une conséquence logique. Ce qui le distingue de nombreux livres contemporains du même domaine est sa sobriété. Il ne promet pas de raccourcis, ne repose pas sur des stratégies complexes. Et met la discipline au centre de la liberté financière. Son positionnement est celui d'un classique intemporel, comparable à un manuel de sagesse financière moins technique que des guides modernes d'investissement, mais souvent plus marquant pour installer des habitudes qui rendent ensuite ces guides réellement utiles. Si vous souhaitez soutenir George Samuel Classen, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.